Pour encore 30 minutes, vous écoutez citoyennumérique.com avec vous au micro Michel Dumais. Et on va parler de livres. Et justement, puisque l'on parle de livres, si vous me permettez, je vais encore vous suggérer une lecture. C'est toujours en anglais, c'est de Matthew Heinemann. C'est « The Myth of Digital Democracy ». Alors, c'est un livre qui remet en question, est-ce que vraiment Internet est à démocratiser la politique? Alors, Matthew Heinemann, dans un ouvrage très fouillé, avec moult références et une bibliographie impressionnante, remet tout ceci en question, ce mythe, à savoir, est-ce que l'élection de Barack Obama, ça a permis « power to the people, empowerment » et tout ce que vous voulez? Non, pas vraiment. Cela dit, je vous impose une condition avant de lire ce livre, à savoir, premièrement, que vous devriez lire le livre qui a été écrit par Joe Trippi. Joe Trippi, c'est celui-là qui a fait la campagne de Howard Dean, donc « The Revolution Won't Be Televised ». Alors, premier prérequis, donc lire ce livre avant toute chose, parce que si vous voulez entendre parler d'une véritable campagne open source, alors là, vous allez voir que celle de Howard Dean l'était. Pas vraiment celle de Obama. Et par la suite aussi, je vous invite à lire un autre bouquin absolument fascinant, qui n'est pas vraiment Internet, mais qui quand même, qui se raccorde très bien, qui se raccroche très bien à la lecture de ces deux bouquins. C'est « How Barack Obama Won the 2008 Election ». Alors, c'est un play-by-play, je vous dirais, alors vraiment, état par état. Alors, c'est basé sur les exit polls, donc ces sondages qui sont faits à la sortie des bureaux de scrutin, à savoir, bon, alors, qui sont ceux qui ont voté pour Barack Obama, dans quel état exactement, est-ce qu'il était jeune, est-ce qu'il n'était pas jeune, parce qu'on a beaucoup tendance à croire que ce sont les jeunes qui ont élu Barack Obama, alors que lorsqu'on regarde ceci, ce livre, qui a été réalisé, d'ailleurs écrit, par toute l'équipe de Meet the Press, donc, ici on a une crédibilité, alors vraiment, vous allez voir que c'est pas nécessairement les jeunes qui auraient élu Barack Obama, mais si on regarde dans les 10 États, alors quels sont ceux qui auraient élu Obama? C'est principalement les États où le plus grand nombre de personnes éduquées. Alors, donc c'est vraiment l'éducation ici qui est vraiment importante. Donc je vous incite à lire fortement ce livre avant de lire The Myth of Digital Democracy, donc How Barack Obama Won the 2008 Election, ainsi que The Revolution Won't Be Televised de Joe Trippi. On parle de livres, justement, Clément Laberge, bonjour.
Bonjour.
Oui, alors, et voilà. Donc, vous, de votre côté, évidemment, c'était la grande nouvelle. On savait que vous travailliez sur quelque chose depuis votre retour de Paris. Et bien, finalement, l'annonce a eu lieu hier, à savoir que, finalement, l'édition québécoise, alors, vient de franchir un premier pas pour assurer sa place sur le marché du livre numérique. C'est ce que déclarait ce matin Daniel Lemay dans le quotidien La Presse, à savoir qu'en collaboration avec l'Association nationale des éditeurs de livres, vous venez de mettre en place une plateforme d'agrégation où peuvent s'approvisionner les bibliothèques et les intermédiaires comme les librairies en ligne. On attendait un peu une annonce de ce genre et on se demandait en même temps où était le Québec. Je pense qu'il y a une première réponse enfin qui vient d'arriver ici, que on vient enfin d'entendre.
Bien, une des caractéristiques, c'est qu'on a choisi de prendre le temps de réfléchir à tout ça avec les éditeurs. D'autres endroits dans le monde, c'est des grands acteurs industriels. On pense à Amazon, notamment, qui ont pris les devants et qui ont entraîné avec eux les éditeurs, parfois de gré ou de force.
Il y a aussi des joueurs comme Google aussi qui veulent être bien présents.
On pourrait en parler aussi. Et donc ici, on a plutôt profité du fait que le marché québécois du livre a des spécificités, est un peu isolé au plan géographique et linguistique pour le moment. Donc, on a un temps pour réfléchir et puis prendre le temps de faire les choses en discutant avec les éditeurs, en faisant un peu de pédagogie, en parlant aussi avec les distributeurs, les libraires. Donc, de réfléchir ça avec l'ensemble des acteurs du livre.
En quoi consiste exactement cet entrepôt numérique, on pourrait dire ainsi? Mais c'est quoi sa mission particulière?
La piste qui a été suivie, ça a été de dire les éditeurs aujourd'hui ont des fichiers numériques, parce qu'il faut arrêter de se dire que les livres n'existent pas au plan numérique. Aujourd'hui, tous les livres sont faits.
L'auteur qui apporte encore son manuscrit écrit à la main,
c'est très rare.
Il en existe très peu.
Ils sont tous faits avec des outils informatiques, donc ils ont tous une existence numérique. C'est par la suite que l'imprimeur les transforme pour leur donner une forme matérielle. Mais donc, on s'est dit, les éditeurs ont des fichiers aujourd'hui. Donc, commençons avec ce qu'ils ont. Commençons par faire un entrepôt où ils pourront déposer les fichiers qu'ils ont. La plupart du temps, c'est des fichiers PDF. Travaillons avec ça, puis au fur et à mesure qu'on avancera avec eux, que la réflexion se fera, que les lecteurs demanderont d'autres formats, on continuera avec les éditeurs à développer des formats e-pub ou autre chose.
Mais à qui justement s'adresse cet entrepôt-là? Est-ce que c'est vraiment les bibliothèques? Est-ce que ce sont vraiment les libraires? Le consommateur, lui, en quelque part, est-ce qu'il peut s'adresser à cet entrepôt ou il non. doit encore continuer à magasiner, par exemple, si lui, il consomme du livre numérique chez les Amazon et compagnie?
L'objectif aujourd'hui de cette plateforme-là, c'est de permettre aux éditeurs de rendre disponible facilement, à un coût raisonnable, leurs fichiers aux autres acteurs de la chaîne du livre, c'est-à-dire les bibliothèques, les distributeurs, les libraires. Donc, c'est par l'entremise de ces gens-là que les gens pourront voir des extraits des livres avant d'en acheter une version papier sur un site comme Archambault, Renaud Bray ou d'autres librairies en ligne, ou éventuellement en acheter des versions numériques. Mais c'est vraiment par l'intermédiaire de ces acteurs-là que ça se passera. Aujourd'hui, la logique, c'est de dire le principal défi pour les éditeurs, c'est de rendre leurs fichiers disponibles.
Vous parlez beaucoup des intervenants dans cette chaîne du livre. Il y a juste un intervenant dont je ne vous ai pas entendu parler. C'est le créateur lui-même, l'auteur. Qu'est-ce que l'auteur, lui, pense? Comment l'auteur a-t-il réagi face à cette annonce de l'Association nationale des éditeurs de livres?
Bien, aujourd'hui, la réflexion s'est faite avec un peu tout le monde à mesure qu'on a eu l'occasion de les rencontrer. J'ai rencontré les gens de l'UNEC au mois de décembre. Chacun des acteurs, de l'auteur jusqu'au lecteur, a à faire sa réflexion aussi sur comment eux vont se positionner dans cet univers-là. Aujourd'hui, il y a des auteurs qui se disent « Moi, mon boulot, c'est d'inventer des histoires, de mettre par écrit de l'imaginaire. Le support sur lequel ce sera diffusé m'importe peu. » D'autres se disent « Non, c'est un nouvel environnement créatif. On peut imaginer d'autres types d'histoires. » Ma perception, c'est que cette infrastructure-là, aujourd'hui, à ce stade-ci, a assez peu d'impact sur la manière dont ça va se passer. Au fur et à mesure où les lecteurs demanderont des livres sous forme numérique.
C'est que tout est inventé selon la demande des consommateurs eux-mêmes, des lecteurs.
Tout à fait.
Donc, on peut très bien imaginer, par exemple, on a très bien entendu parler au cours des dernières semaines de cette initiative, par exemple, de Marie Laberge, qui, elle, a décidé d'utiliser les outils technologiques, mais pour envoyer aux gens une lettre qui a de l'air manuscrite. Donc, c'est une autre façon de faire les choses. Donc, à terme, on peut croire qu'il n'y aura plus juste un modèle d'affaires tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais il y aura des modèles d'affaires et que un auteur pourra utiliser un ou plusieurs de ces modèles d'affaires.
Mais en fait, il faut dire qu'il y a déjà plusieurs modèles d'affaires parce qu'il y a plusieurs types de production éditoriale. Entre l'édition scolaire, l'édition de livres de référence, de guides de voyage et puis de romans, il y a déjà des modèles très diversifiés, des types de contrats avec les auteurs très diversifiés, des types de distribution très diversifiés. On a déjà des petites maisons d'édition au Québec qui ne font que web. On a des gens qui expérimentent les deux. On a la courte échelle qui fait avec épisodes, des sites web qui sont complémentaires d'une distribution, non pas en librairie et en dépanneur. Il y a foisonnement actuellement de modèles d'affaires. Tout le monde est en recherche. L'idée de cette plateforme, c'est de permettre à tous les éditeurs de s'engager dans ce mouvement-là, même s'ils n'ont pas forcément en interne des expertises techniques, des grands moyens financiers. Parce que ça reste que le monde de l'édition Québec, c'est souvent des très petites équipes qui s'investissent corps et âme dans la relation avec les auteurs et qui n'ont pas les moyens de développer toute une infrastructure particulière à chacun.
Clément Laberge, on va faire une courte pause musicale, mais on revient immédiatement et on continue à parler du livre numérique. Suggestion de notre ami Philippe Renaud. Oui, pas de Philippe Renaud encore une fois aujourd'hui, je sais, mais ne vous en faites pas, dans 2 semaines, il sera de retour avec nous. En attendant, il continue. Dieu merci de nous envoyer ses suggestions musicales. Et on continue cette discussion, cette conversation avec Clément Laberge, donc de la Société de Marc, sur le lancement de cette plateforme d'agrégation avec l'Association nationale des éditeurs de livres. Clément Laberge, justement, quel est le rôle de Demarc précisément dans cette annonce hier? Quel rôle allez-vous jouer exactement?
Notre rôle, c'est d'une part de conseiller l'association sur les moyens techniques qu'on peut adopter pour faire simplement cette agrégation des fichiers. C'est aussi un rôle d'accompagnement puis de pédagogie auprès des éditeurs.
Parce que c'est très important.
Tout à fait.
On a trop tendance à oublier justement cet accompagnement qui est nécessaire. La plupart des gens se sentent dépassés quelquefois par la technologie, surtout que les gens qui œuvrent dans ce domaine-là, ben c'est quand même des personnes d'un certain âge. Donc, il faut les prendre par la main, les accompagner.
Bien, il faut le faire, puis il faut le faire avec beaucoup d'humilité aussi, parce que c'est des gens qui connaissent très, très bien leur métier, qui souvent apportent à notre attention des exigences du métier d'éditeur qu'on connaît assez peu, qu'on travaille que dans les technologies, qui nous rappellent que un livre, c'est un texte, c'est une disposition, c'est une organisation. Le travail d'éditeur est un travail qui a une valeur en soi. C'est pas faut pas confondre le travail de l'imprimeur et de l'éditeur. Déjà que l'imprimeur a aussi un savoir-faire très particulier. Mais il n'y a pas que moi qui apprends aux éditeurs des choses, j'apprends aussi beaucoup. Puis c'est dans ce dialogue-là qu'on arrive à trouver des solutions simples, efficaces, qui peuvent nous permettre d'avancer collectivement.
On parle de livres aujourd'hui, j'en tiens un dans mes mains. C'est dans le fond un objet. Un objet qui est parfait, à savoir que je l'ai dans les mains, il se manipule très bien, sa consultation est idéale, je peux l'amener un peu partout avec moi, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit bien installé dans mon divan à la maison, ou encore même si je me fais véhiculer par quelqu'un, je peux lire un livre. L'objet est parfait en lui-même. Demain, le livre sera quoi? Exactement. Et qu'est-ce qu'on appellera un livre demain? Est-ce qu'on parlera toujours de livre?
Moi, je pense qu'on est globalement mieux de parler d'œuvre que de livre. C'est-à-dire qu'il y a une œuvre et puis il y a différentes formes, différents supports qui nous permettent d'avoir accès à une œuvre qui pourra prendre toutes sortes de formes. Le livre, oui, peut être parfait. Parfois, il est lourd. Parfois, il est... Il est fragile. Bref, ça dépend des environnements dans lesquels on veut lire. Pour moi, l'idée est pas d'opposer, à ce stade-ci du moins, c'est pas d'opposer le livre ou l'œuvre mise sous forme papier, matériel, puis d'autres versions. C'est de s'assurer qu'au moment où j'ai envie de lire, j'ai accès à l'œuvre que je veux lire. Donc, parfois, ce sera sur mon iPhone dans les transports en commun. Parfois, ce sera sur un livre électronique parce que je suis parti en voyage et puis j'ai voulu apporter 4 livres sans surcharger mes bagages, et parfois, ce sera toujours le livre papier.
Vous parliez de transport en commun, ça, c'est intéressant, parce que tout à l'heure, hors d'onde, justement, on discutait ensemble, et on revenait, bon, sur le Japon. On avait discuté de ça avec Carl Charest, et vous nous disiez, entre autres, justement, les habitudes de consommation des Japonais étaient très différentes, parce que, justement, la bande passante, qu'il y en avait à peu près partout au Japon, et c'est principalement dans les transports en commun que les gens consomment leurs produits culturels.
Le temps dont les gens disposent, c'est dans les transports en commun. Ils peuvent le faire, ils peuvent écouter des livres audio, ils peuvent lire, ils peuvent écrire. Ce qui n'est pas possible qu'on est en voiture, ou en tout cas beaucoup plus difficilement. Les réseaux de transports en commun sont souvent pas reliés au réseau. Disons, le réseau est assez difficile, donc c'est pas du tout les mêmes conditions pour voir apparaître des usages de pratiques culturelles dans la ville, disons.
Revenons à cet objet, encore une fois, le livre, et vous disiez, entre autres, que cet entrepôt numérique permettrait aux bibliothèques de s'approvisionner. On le sait, une bibliothèque, en ce moment, c'est un lieu où sont entreposés des objets physiques, le livre bien réel ici que l'on peut toucher. Dans cette virtualité que vous proposez, quelle sera la place des bibliothèques? Est-ce que la bibliothèque est appelée à disparaître? Ou le rôle de la bibliothèque va-t-il évoluer, va-t-il changer?
Certainement pas à disparaître. D'ailleurs, les bibliothèques sont de plus en plus des lieux de rencontre et puis de moins en moins de simples entrepôts, en fait, qu'elles n'ont jamais été, mais qu'ils sont encore moins que jamais. les versions numériques des livres pour une bibliothèque, ça permet d'abord de développer des modes d'accès aux œuvres bien différents. On peut faire des recherches à l'intérieur d'un livre entier. On peut relier des œuvres par des lieux dans lesquels elles ont été plutôt que simplement par les thèmes. Donc, moi, je pense que les bibliothèques vont devenir, au contraire, un lieu de créativité autour des œuvres plus riche que jamais. Des occasions qu'on a de, et même un beau lieu pour les gens pour participer à l'organisation des œuvres par les lectures qu'elles en font, les commentaires qu'ils y apportent.
Est-ce que ce serait la même chose pour les librairies?
Je pense que oui, tout à fait. Et je pense que le libraire aura toujours sa place, son rôle de recommandation et d'animation des réseaux de lecteurs.
Difficile de ne pas voir, évidemment, cette annonce dans cette perspective, bon, entre autres, où on voit les grands acteurs internationaux se positionner en ce moment. On parlait d'Amazon tout à l'heure, et il y a Google qui, lui aussi, de son côté, va adopter, j'imagine, une politique très agressive. J'imaginais même, bon, suite à la lecture, et c'est vous qui m'aviez suggéré justement cette lecture du magazine Economist, à savoir, est-ce que peut-être, par exemple, il pourrait y avoir la création d'un iTunes du livre, et moi j'envisageais, tiens, pourquoi pas le prochain produit d'Apple ne serait-il pas une liseuse qui serait reliée à un iTunes? L'infrastructure est déjà là, elle n'existe pas. Dans tout ceci, le consommateur va quand même avoir du choix, mais est-ce qu'il va y avoir accès aux œuvres d'ici, aux œuvres québécoises?
Bien, c'est le premier pas qu'on fait avec l'annonce d'hier, c'est de faire en sorte que les éditeurs ont les moyens simples et de rendre disponibles les œuvres.
Mais est-ce que vous allez établir des liens, par exemple, avec ces grands joueurs du privé que sont Amazon, que sont Google, pourrait être éventuellement Apple? Parce que c'est d'ailleurs, par exemple, et je me souviens que Carl l'a maintes fois déploré, alors le peu de disponibilité d'œuvres québécoises, d'œuvres musicales québécoises sur la boutique iTunes. Est-ce que vous, de votre côté, vous allez établir très rapidement ces ponts avec ces grands joueurs-là?
Certainement. Aujourd'hui, il est un peu prématuré de faire ça parce qu'on n'avait pas l'accès aux œuvres. Déjà, les éditeurs, même s'ils avaient voulu les partager, dans la plupart des cas, ils n'avaient pas l'expertise puis l'infrastructure pour le faire. C'est un pas qui est franchi hier. Aujourd'hui, notre logique est plutôt de développer dans un premier temps des liens avec d'autres réseaux semblables en Europe francophone, auprès des réseaux qui nous permettraient de rejoindre les francophones d'ailleurs en Amérique du Nord. Puis de tranquillement monter une banque d'œuvres qui nous permette après de dialoguer avec ces grands acteurs-là. Sur quelle base technique ça pourrait être fait, tout ça, c'est des défis pour les prochaines semaines, les prochains mois. Mais aujourd'hui, on sait qu'avec l'infrastructure qu'on a mis en place, l'établissement de liens techniques pour donner accès à ces œuvres-là à des agents commerciaux, qu'ils soient très grands comme Amazon, Apple ou des réseaux de libraires en France ou au Québec, on sait qu'on est en mesure de le faire. Maintenant, ça devient une discussion qui est plus d'ordre commercial, stratégique, que des obstacles techniques à rencontrer.
Carl Charest, vous vouliez poser une question, allez-y.
Si je peux me permettre, je pense
Permettez-vous.
Je pense que ça va devenir un facilitateur aussi, parce que ce qui empêche un petit peu les producteurs de musique québécoise d'être sur ces grands réseaux-là, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement le pouvoir de négociation parce que, justement, ils sont des petits acteurs. Si une entreprise comme DeMarc réussit à faire la gestion de ces entreprises-là et devient une espèce de, excusez le terme anglais, mais de broker de livres québécois ou de livres francophones, il y a un pouvoir de négociation pour cette industrie-là qui est beaucoup plus puissant qu'il le serait au niveau de la musique, où est-ce que chaque joueur joue de par lui-même.
Tout ceci est intéressant, Carl, mais je vais poser une question à Clément. La réalisation de cette plateforme, est-ce qu'il y a eu une quelconque aide de l'État pour réaliser cette plateforme-là, sachant, entre autres, et parce qu'on entend à l'occasion les gens de la DIS dire justement, il faudrait que le gouvernement nous aide à concevoir une plateforme de distribution. Et oui. Est-ce que vous considérez que le gouvernement a sa place là-dedans?
Tout à fait. Aujourd'hui, ça s'est passé dans notre cas un peu à l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'Association nationale des éditeurs et nous qui avons dialogué pour arriver à construire une plateforme, à proposer un projet. Du côté de DeMarc, on a travaillé dans une logique d'entreprise réseau en s'associant avec d'autres petites entreprises pour nous aider à réaliser la solution. Parce qu'on est dans un petit marché, il ne s'agit pas de tout réinventer puis de faire des méga plateformes complexes. On commence puis on va avancer au rythme où les acteurs sont capables de le faire. Du côté de l'ANEL, ça a été de définir avec nous cette plateforme-là, ses caractéristiques techniques, les grands fondements de son fonctionnement. Et puis, je sais que l'ANEL s'est tourné vers la SODEC, vers Patrimoine canadien, pour aller chercher de l'aide, mais sur la base d'un projet concret. En disant, nous, on avance dans cette direction-là, ça ira plus vite et ce sera plus facilement une démarche collective si l'État vient jouer un rôle de renforcement.
Donc, vous croyez qu'il y a une certaine légitimité aux demandes, par exemple, de l'ADIS de recevoir des subsides gouvernementaux pour concevoir une telle plateforme qui s'apparenterait à celle, par exemple,
ben, moi, je connais pas assez le code de la musique, mais ma perception comme observateur de cette scène-là, c'est qu'il y a du travail à faire entre les acteurs de l'industrie dans un premier temps.
Parce que c'est ça que j'allais vous dire, parce que vous venez de concevoir la plateforme ici. Dans le fond, il doit être très facile de l'adapter justement aux besoins d'une autre industrie, par exemple celle du disque.
La situation est quand même un peu différente parce que dans le disque, les grands acteurs ont déjà pris place. Donc là, la porte n'est pas ouverte de la même façon. Moi, je pense qu'un des grands avantages qu'on a à agir maintenant sur le livre, c'est qu'on est capable de se... En tout cas, on pense qu'on est capable de se structurer à l'heure actuelle un peu à l'abri des influences des plus grands acteurs et que quand ils s'intéresseront au marché québécois, on aura déjà une base de rapport de force à entretenir avec eux, comme le disait Carl.
Carl-Frédéric Dessel, vous vouliez réagir?
Bien, les gens de l'industrie de la musique ont déjà tout ce qu'il faut pour faire ça. Il y a des petites boîtes de distribution à Montréal qui mettent déjà leurs chansons sur iTunes, leurs disques sur iTunes après une journée, après leur sortie. Il n'y a pas de raison autre que commerciale si les grands joueurs prennent un mois ou deux pour mettre les nouveautés sur iTunes ou sur d'autres plateformes. Alors, c'est un peu dommage qu'on n'investisse pas plus d'énergie à être présent sur ces plateformes-là partout. Puis la nécessité d'une plateforme, bien, dans le domaine du livre, je pense qu'on partait de plus loin. Et là, dans le domaine de la musique, on est déjà pas mal rendu là. Il n'y a pas de raison de faire ça.
Clément Laberge, dernière question, si vous le permettez. On vient de résoudre une grande partie de la chaîne de production, à savoir qu'on est rendu ici à la distribution. Reste toujours la consultation du livre numérique. Sous quelle forme cela prendra-t-il?
Sous quelle forme au pluriel?
Oui.
Certainement. Je pense que dans les prochaines semaines, on va voir beaucoup, beaucoup d'actualités là-dessus. Aux États-Unis, le livre électronique d'Amazon est un grand succès, prend beaucoup d'espace. Il faut s'intéresser au téléphone, au iPhone. Archambault a déjà en magasin un livre électronique. On pourra peut-être s'en reparler, mais je pense que les interfaces pour lire, si elles sont pas encore tout à fait à point, les prochaines générations nous réservent des surprises.
Parce qu'on s'entend bien que, enfin, j'imagine que ce que l'on voit en ce moment, ces liseuses électroniques, ne sont qu'un intermédiaire. À terme, ce que l'on verra, c'est probablement la feuille de papier en polymère, la feuille de papier électronique, celle que l'on pourra glisser facilement dans la poche de son veston ou encore tout simplement dans sa sacoche.
Ouais, aujourd'hui, on est probablement au stade de bons ou de très bons prototypes.
Clément Laberge de la Société de Marques, c'est un plaisir de vous recevoir. On se reparlera sûrement au cours des prochaines semaines des enjeux reliés au
Toujours
numérique.
Toujours un plaisir.
Et voilà, ben c'est tout pour cette nouvelle édition du Citoyen numérique. Nous, on retourne encore une fois dans notre bac à recyclage afin de préparer l'émission de la semaine prochaine. Je remercie beaucoup Maurice Bolduc qui était aujourd'hui avec moi à la mise en onde. Un grand merci à tous les invités ainsi qu'aux chroniqueurs de l'émission. Citoyen numérique est une émission animée, réalisée et produite par Michel Dumais. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette autre édition de votre magazine branché sur les impacts socio-économiques des technologies sur CIBL 101,5 FM. Après les publicités qui suivent, surtout ne manquez pas Mel et Maître.